Radio Libertaire reprend émission Chronique Hebdo, je vous l'avais dit, à partir de 11h. Et on a entendu Handel, donc les génies du classique, concerto grosso numéro 4, hein, et c'était le dernier morceau, Largo, voilà. Alors sur Radio Libertaire, de temps en temps, hein, vous savez, il y a du jazz, les précurseurs hein, pour le jazz, pour Handel, à vous d'apprécier. Et donc, je vous l'avais dit au début de cette émission, au début de l'émission de Chronique Hebdo, à partir de 10h, à partir de 11h, nous recevons donc dans le studio Claude et Clovis Prévost, hein, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, pour un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, Les bâtisseurs de l'imaginaire. Alors, c'est un gros bouquin, 422 pages, je vous l'ai dit, peut-être on va en parler avec Claude et Clovis Prévost, un beau livre. J'ai dit que puisque les reproductions et en tout cas les photographies sont magnifiques dans cet ouvrage, donc on va en parler. Je vous le rappelle, alors c'est les éditions Klingsiek. Édition Klingsiek, les belles lettres hein, pour cet ouvrage. Donc aussi, je vous le précise, on en avait déjà parlé au début du mois de décembre. Il y avait une projection. On va en parler avec Claude et Clovis Prévost sur trois films sur les bâtisseurs de l'imaginaire, sur trois plutôt bâtisseurs importants. Et donc c'était aussi une présentation à la Halle Saint-Pierre début décembre de cet ouvrage. Voilà. Alors je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les bâtisseurs de l'imaginaire, je vous les ai cités. Donc dans cet ouvrage, il y a le facteur cheval, le palais idéal, l'abbé Fourré, les rochers sculptés de Roténeuf, Monsieur G, les tours de Nesle, Marcel Landreau, le village natal, Raymond Isidore, la maison de Picassiette, hein, je vous l'ai dit, à Chartres, Fernand Châtelain, bonjour aux promeneurs, Camille Vidal, l'arche de Noé, Irial Wetz, la chapelle Sixtine, Robert Garcet en Belgique, hein, la tour Eben Ezer, Chaumeau et son village d'art préludien, Robert Tatin à côté de Laval, les signes de l'homme, Robert Vasseur, la maison aux papillons, Guy Brunet, l'âge d'or du cinéma, et Roger Rousseau, on verra ça juste tout au cours de cette émission, le Causse en sous-sol. Alors déjà, on va voir faire un petit réglage, Clovis, sur les micros, hein, puisque j'ai levé tous les micros, je ne sais pas lesquels fonctionnent.
Oui.
Et voilà, on vous entend.
Oui.
Et donc pour ce qui est donc de cet ouvrage, Les bâtisseurs de l'imaginaire, déjà première chose, c'est une réédition. Puisque apparemment la première édition était 1990 et il y a quatre bâtisseurs nouveaux qui ont été rajoutés à cette nouvelle édition.
Oui.
Oui. Et alors lesquels ?
Alors il y a eu un remaniement éditorial assez important. On a rajouté dans chaque chapitre. Il y avait 10 chapitres au départ dans ce premier ouvrage qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est épuisé depuis longtemps. Et on a remanié considérablement chaque chapitre, en ajoutant des documents qu'on n'avait pas publiés à l'époque. On a relooké un petit peu la maquette aussi, et on a rajouté 4 nouveaux chapitres à la fin de l'ouvrage, qui sont Robert Tatin, Robert Vasseur, Guy Brunet et Guy Rousseau. Voilà. Donc l'ouvrage a été considérablement augmenté, beaucoup mieux imprimé aussi, voilà. Enfin bon, c'est un livre important qui représente un travail qui s'est échelonné sur maintenant presque 50 ans, puisqu'on a commencé ces recherches sur la création dite marginale hors norme dans les années 60-65, par là, et voilà, maintenant le fruit un peu d'un travail multimédia, parce que notre méthode de travail, c'est d'approcher certains créateurs de l'ombre ou des marges d'une manière photographique, en enregistrant beaucoup de paroles, en revenant très longtemps sur chaque site, sur plusieurs années quelquefois, et tournant aussi des films. Donc c'est un travail, une approche multimédia qu'on a rassemblé dans cet ouvrage. Voilà.
Oui, alors je tenais donc à vous présenter Clovis, puisque tu as commencé. Rappeler que sur trois angles importants, l'écrit, je disais, par rapport à cet ouvrage, le cinéma et la photographie. Alors c'est important pour toi, cinéaste, puisqu'on va voir que tu as tourné plusieurs films sur ces bâtisseurs, hein, on va en parler au cours de cette émission, des photographies, et puis aussi, je vais le dire quand même aux auditeurs, de nombreux ouvrages, on le rappelle, un sur Alexandre Calder, il y avait un autour de Gaudi, hein, faut le rappeler quand même, je pense. Il y en a d'autres, hein, certainement. Et puis, moi, j'avais souligné quelque chose, peut-être on en parlera, un film sur les graffitis de Paris, et tu avais mis sous titre « À bas les murs du silence ». Alors ça, je trouve c'est beau. Hein. Bon, alors, si tu veux, c'est un des éléments, donc peut-être on verra. Et puis pour un ouvrage, tu étais venu, hein, tu es déjà venu il y a plusieurs années, mais c'était à travers l'œuvre de Clovis Trouvieux. Oui. On l'avait évoqué. Et puis, Claude Prévost, auteur pour beaucoup d'articles dans cet ouvrage, tu vas me le dire, et puis cinéaste, hein, et donc le rappeler, collaboration aux ouvrages de aussi La vision artistique et religieuse de Gaudi, donc tu as participé, et avec aussi un autre ouvrage, 10 recettes d'immortalité de Salvador Dali. Hein, c'est, si je me trompe, tu me le dis. Et tu as participé évidemment aussi au film que Clovis Prévost a réalisé. Hein, vous les avez réalisés. Alors comment ça se passait en commun? Je ne sais pas. Alors on va là aussi, je disais déjà pour des gens qui ne connaîtraient pas les bâtisseurs de l'imaginaire. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser, l'intérêt très important, je pense, à notre époque, d'ouvrir, j'ai dit tout à l'heure, sur l'esprit, sur la connaissance, sur le savoir, et aussi, évidemment, l'imaginaire. Et j'ai parlé, on parlera peut-être d'art total, ce qui les distingue d'autres créateurs, d'art singulier ou d'art brut. Pour eux, c'est toute leur vie, et en même temps, c'est toute, je dirais, leur pensée. C'est le lieu qu'ils ont habité, qu'ils ont à certains moments de leur vie, puisque d'autres, pas tout le temps, mais on le verra tout à l'heure. Et donc, on peut dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que par rapport à ce qu'on nous propose dans l'art contemporain, l'art actuel, eh bien, eux, depuis des dizaines d'années, on verra, parce qu'il y a des âges différents pour leur parcours, eh bien, ont apporté quelque chose de considérable dans la création, et ça a été quelque chose, évidemment, qui a été un petit peu occulté par la société pour ces bâtisseurs, que je pense que on irait dans la rue, on ferait un micro-trottoir et on poserait des questions à des gens pour savoir s'ils les connaissent. Est-ce que ces gens-là diraient « de quoi vous me parlez ?» Et je pense que c'est important de dire que c'est aussi ces bâtisseurs de l'imaginaire, eh bien, ont été, à part évidemment des gens qui s'y sont intéressés, mais on peut dire délaissés par le savoir ou par la culture officielle.
Oui, c'est juste dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a affaire à un phénomène relativement marginal par rapport à la grande création ou aux artistes consacrés, reconnus. Donc c'est, on touche des marges, on touche l'en dehors. Mais il y a cette certaine réalisation d'art total, en fait. On essaie bien de parler de ce concept-là. Et il s'agit, en fait, d'architecture aussi, de multiples langages qui se mélangent. pour produire en fait des lieux, des domaines qui deviennent finalement visitables aussi, et leurs auteurs restent au milieu comme qui produisent une sorte de coquille d'escargot, quoi, comme qui produisent leur propre domaine en parole, en peinture, en sculpture, aussi en revendiquant une manière de vivre aussi très très importante, une sorte de philosophie personnelle. Bon, et ces lieux quelquefois sont fragiles, disparaissent complètement après la mort de leurs auteurs. Donc il y a effectivement ce problème de la reconnaissance qui joue, mais en même temps ce sont des productions qui s'adressent aux autres, hein, à autrui, donc qui sont visitées, il y a une sorte de reconnaissance qui finit par opérer. Et bon, par exemple le Palais du Facteur Cheval.
Alors là, voilà.
C'est classé par Malraux dans les années 65-68. La maison de Picassiette a été aussi sauvée, donc est maintenant classée monument historique. L'ensemble de Tatin aussi. Donc il y a des lieux qui sont maintenant reconnus, visitables, et ce sont des véritables phénomènes qui appartiennent au patrimoine maintenant. Et voilà, d'autres ont disparu. On a, dans le livre, on publie une carte avec les sites visitables et les sites ayant disparu aussi. Donc voilà, c'est un peu le schéma, un peu le... Voilà, tu veux dire quelque chose, Claude, peut-être, à ce sujet ?
Si on considère le dernier exemple donné de Roger Rousseau, Roger Rousseau, c'est qui vit dans le Lot, sur le Causse. Là, on a un phénomène géologique, pratiquement, qui intéresse à la fois les scientifiques et les curieux en quête d'un savoir, parce qu'en fait, il a travaillé sur un terrain qu'il a mis à découvert un jour. C'est une surprise extraordinaire, et c'est quelqu'un qui travaille sur l'effet de surprise, de passer d'un bois de chênes, de petits chênes sauvages, à un lieu à la fois architecturé qui est en train de construire des murs pour protéger ce site, mais qui évidemment est mis à jour avec les pluies, les orages, à une certaine fragilité, mais en même temps c'est du roc, c'est un roc calcaire qui a un effet de chaos, qui présente un effet de chaos. Et là, on a un phénomène qui fait appel à l'imagination géopoétique, comme on dit. Et c'est quelque chose qui fait appel au durable. Et même si lui-même nous sommes tous éphémères, c'est quelque chose qui peut créer cet effet de catastrophe géologique, peut déclencher chez chacun quelque chose qui ne disparaît pas.
Oui, alors j'ai vu justement dans l'ouvrage des photographies de ce site, et je voulais dire ce qu'il disait, enfin, ce que tu as écrit, ou ce que vous avez écrit. Pour Roger Rousseau, donc c'est une aventure incroyable que de commencer à creuser un trou, un paysage, d'y descendre son corps et d'avancer pendant 20 ans au milieu des roches. C'est une aventure physique, mais surtout profonde, qui remet tout en question le rapport de l'homme à la matière. Et pendant mon existence, rappelez, j'ai beaucoup œuvré pour la personne humaine. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine psychiatrique. Puis petit à petit, j'ai décidé de m'éloigner du monde humain. Les pierres sont alors devenues le sujet de ma réflexion. Et je pense, alors là, on a un aspect de philosophie, de recherche, et puis aussi de rupture. Et là aussi, peut-être aussi, c'est un élément, parce que Michel Thévoz en parle à un moment... Et je vais vous lire ça aussi, puisque c'est dans l'ouvrage, hein. Les bâtisseurs dont il est question, on a cité tout à l'heure, ont entrepris de transgresser les règlements et usages et d'affronter les ricanements de leur entourage, quelquefois, pour échafauder cette manière de philosophie personnelle et concrète où l'habiter, le sentir, le penser, le vivre, ce qu'on parlait tout à l'heure d'art total, trouve une expression encyclopédique monumentale. Et peut-être qu'on en parlera au cours de l'entretien, le côté aussi grandiose, quelquefois folie presque des grandeurs. Hein, je ne sais pas, enfin, l'évoquer, bien que en cette période, alors c'était vous, il y a déjà un moment, hein, de programmation urbanistique, le terme résonne péjorativement dans la bouche des architectes les plus éclairés, qui se croient-elles, et Thévaux dit, nous dirons que cette exposition, mais il en parle, puisque je dis c'est peut-être un livre-exposition aussi, constitue un éloge de l'anarchie architecturale. Alors voilà, je l'ai souligné aussi, puisque vous êtes à Radio Libertaire, plusieurs fois dans l'ouvrage, vous avez évoqué, ou ça a été évoqué, pour les lieux, pour la façon d'être, une sorte de rupture avec l'organisation imposée, avec une réglementation impitoyable. Et donc, chez chacun d'entre eux, on retrouve toujours cet écart, et puis aussi cette envie, bien au-delà, nécessité de faire ce qu'ils ont envie de faire, malgré évidemment les pesanteurs de la société autour d'eux. Voilà.
Oui, oui, dans l'ensemble, c'est très juste. Mmh. On se trouve dans une problématique entre utopia et marginalia, en fait. Hein. Mmh. Il y a les deux choses qui cohabitent. Ici, ce sont on peut les appeler des anarchistes, hein, mmh, en anarchie. Hein, ça, c'est important, qui construisent une arche de témoignage, hein, avec son soubassement. Ce sont des lieux de résistance, mmh, très importants,
voilà,
qui sont revendiqués.
Bien sûr, oui.
Des réfractaires de toute contrainte, mmh, et à la mise au pas en même temps et en ordre. Bon, sans Dieu ni maître, hein, mmh, d'égal à égal, sont des individus qui sont dans cette perspective fraterniste en même temps, où l'idée de penser est aussi est un tout, est agissante, hein, comme dans la pensée magique un petit peu. Il y a toutes ces choses-là qui se mélangent.
Oui.
Il y a un exemple typique qu'on a approché pendant de longues années, c'est par exemple Chaumont dans la forêt de Fontainebleau,
ouais,
avec son village bien nommé d'art préludien, ce désir de revenir, mmh, à l'origine des,
ouais,
choses et d'entrer en résistance, c'est-à-dire qu'il a cet homme-là qui avait une famille qui avait des ouais, dons importants, qui avait une certaine culture à un moment, est entré en rupture complète par rapport à Paris, par rapport à son métier, par rapport à ses enfants. Il s'est réfugié dans la forêt juste après la guerre, après la guerre, il était prisonnier en Allemagne et il a occupé un petit terrain que sa femme avait acheté à Fontainebleau avec une petite cabane de week-end. Et un jour, il a décidé de vivre là, en ermite, d'abandonner tout, mm-hmm, et de faire un village, ouais, d'art préludin destiné à la visite aussi et à sa propre création. Donc là, c'est une aventure assez fascinante. On parlait tout à l'heure de Roger Rousseau, qui, ouais, lui aussi, après une vie dite traditionnelle, un, mmh, métier,
ouais,
ouais, 40 ans de travail, rompt ce rythme-là, décide de se réfugier à 50 ans dans un espace dans le Causse qu'il avait, lui, et à bâtir, à faire un travail un peu sur le lithique, sur la pierre, sur comment étaient les choses à l'origine, il y a des millions d'années, un questionnement sur l'origine du monde. Et en même temps, c'est son propre destin qu'il revit là. Ce sont des lieux qui sont de véritables mausolées aussi, mmh, et des tombeaux, faut pas oublier ce côté-là. Et un désir d'immortalité assez extraordinaire.
Oui, on le retrouve.
Qui se perpétue, ouais, on, ouais, se retrouve, ouais, ouais, quasiment dans chaque... dans chaque domaine d'une manière plus ou moins déguisée,
oui,
mais quelquefois très affirmée. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le palais idéal du facteur
Schreier, oui, 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 oui,
c'est un mausolée au départ, mmh, mmh, et c'était sa seule préoccupation toute sa vie. Il voulait être enterré là, faire trace aussi de son passage sur la Terre. Et quand il n'a pas eu l'autorisation d'être enterré dans son propre palais idéal, comme il l'appelait, il a demandé encore 10 ans de crédit à 78 ans, et à 88 ans, il a terminé son propre tombeau dans le cimetière du village. Vous voyez, c'était un peu ce cycle-là. Et Roger Rousseau, pour revenir à lui, nous a dit aussi qu'il souhaitait aussi être mis au milieu de son domaine, dans le cause en demeure, comme il dit.
Point Claude, si tu... Oui.
Mais enfin, ouais. ce qu'il faut dire, ouais. surtout, enfin, retenir, ce sont des créations qui jouent par accumulation en un seul lieu la plupart du temps, et donc ça par ajout, et donc ça a tout de suite un aspect monumental, édifiant et édificateur. C'est une chose qui est en miroir, qui prend forme petit à petit. Donc si on peut parler de tombeau dès le départ, c'est en même temps un hymne à la vie. Donc la vie et la mort sont très liés. Mmh. Ils sont très liés dans...
Oui, mais il y a... Alors,
oui, mais oui, ça, c'est... Oui. C'est un phénomène de reconstruction. C'est des gens aussi qui ont le désir de se reconstruire à travers leur propre production. Donc, c'est pour ça que ça prend aussi une forme architecturale, tout ça. C'est la projection du corps propre. Donc, ils occupent un espace, ils se multiplient eux-mêmes, ils sont en duplication à travers leur propre production. Et on assiste à des gigantesques doubles, en fait, qui opèrent là, d'une manière assez extraordinaire, parce que c'est des gens qui sont finalement possédés réellement, dans le sens magique du terme, par la création. Mmh. J'ai jamais vu, moi, des gens aussi impliqués d'une manière quasi hallucinatoire. Il y a un côté de voyance aussi, il y a des croyances comme ça qui ressortent, très très inquiétantes et intéressantes. Chaumont, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau, il nous disait, écoutez, moi, à force de vivre dans cette forêt, je finis par devenir comme mes amis africains ou indiens. Quand je me lève le matin, je tâte le sable, le sol pour me recharger, j'embrasse les arbres, Oui, il y a tout un processus comme ça avec la nature. Avec
alors ça, voilà.
C'est tout à fait fascinant.
Aussi. L'importance, ça on peut aussi souligner pour même l'abbé Fouré pour les rochers sculptés, mais le lieu et la nature. Oui. C'est-à-dire que là, tu dis pour Chaumont, l'aspect, on parlait de l'écologie, puisque le mot, mais je sais pas, existe, c'est relativement récent.
Oui, l'écologie, dans le sens de la catastrophe, parce qu'au départ, chacun est marqué par quelque chose d'inhumain. Il y a une réaction, réaction positive, active, pratique aussi. Chaumont a écrit des poèmes, beaucoup, mais il a écrit des poèmes après. Il a commencé par toucher la matière.
Et là, alors justement, dedans, dans l'ouvrage, pour les photos, ce qui concerne le lieu Chaumont, on va le rappeler. Alors, c'est le village d'Arprey Ludien. On pourra peut-être le visiter. On va voir après, peut-être, on en parlera un petit peu plus, parce que quelquefois séparés, je ne sais pas, vous voulez pas, certains artistes plus que d'autres de l'évoquer. Et donc, pour Chaumont, vous mettez le luxe. Qui inévitablement s'installe, on est en plein dedans, dans ce monde, dans la richesse, détruit le lien naturel et crée le monstre antisocial. Eh ben, c'est l'élection de Trump en ce moment, je pense. Hein. Là, on est dans des visionnaires qui annonçaient ces catastrophes, hein, le luxe, hein, c'est bien ça, détruit le lien naturel et crée le monstre, on pourrait dire, c'est des monstres antisociaux qui se sont installés, qui s'installent maintenant. Oui, donc eux, ils en parlaient, de certaines manières, visionnaires.
Ça, vraiment, ce que disait Chaumont, je suis riche de pauvreté, ils sont pauvres de richesse.
Ouais.
Donc ils retournaient complètement le problème. Donc il y a cette revendication qui est très forte. Mais par exemple, Je repense par exemple à Robert Tatin là, dans son domaine de la Frénouse, dans la Mayenne. Il parle d'une manière magnifique de ce processus de l'espace. Il dit que l'architecture, c'est une espèce de formule qu'il décompose d'une manière graphique très intéressante. Arche.
Ah oui, oui, c'est ça.
Faire pont.
Faire un pont.
Ouais. Vous l'avez mentionné dans le livre.
Ouais, c'est ça. Le fameux I vertical phallique, quoi, qui soutient le monde. Et texture. Architecture, texture, c'est le mélange en fait de tous les langages possibles et imaginables, et un phénomène de métamorphose aussi complet. Entrer en création, c'est entrer en métamorphose, quoi, passer d'un monde dans un autre. Voilà.
Alors là, juste, oui, on évoquait Chaumont parce que disait le retournement. Là aussi, l'importance de certains matériaux. D'avoir rien et les déchets, les détritus, donc tout ce qui est mis au rebut, tout ce qui est exclu, on pourrait dire, là on voit ça, parce que j'évoquais au début de cette émission, donc les tragédies dans nos sociétés avec les gens qui crèvent dans la rue, hein, on s'en aperçoit quand il fait froid, et donc on considère un peu les ressources humaines, je dirais c'est un peu ça, ça devient des ressources qu'on peut jeter, hein, dont on se débarrasse. Et à la fois, eux mettant pour beaucoup le fait de construire, comme Chaumont, avec tout ce qu'il avait à disposition. Alors, il n'avait pas grand-chose parce qu'il était dans la forêt à côté de Fontainebleau. Mais le sable, des cailloux, des branches, des décharges, eh bien, il allait chercher tous ces matériaux, et avec ces matériaux, donc, il construisait ou il bâtissait des choses extraordinaires. Et ça aussi, là aussi, pour le facteur cheval, enfin, c'est parti à partir d'un caillou, et puis il a ramassé des cailloux, et il en a fait un palais idéal. Donc il y a toujours cette différence-là, enfin, cette opposition, je dirais, entre le résultat qui est extraordinaire, et avec le point de départ, ne disposant de rien. Avec rien, ou tout le monde peut en disposer. Donc c'est, enfin pas tous, hein, mais alors ce que je voulais vous dire aussi, puisqu'on l'avait évoqué tout à l'heure, le tombeau, un lieu qui ne se visite pas plus, la chapelle Sixtine d'Irialvetz, parce qu'il y avait quand même un peu d'ironie, puisque lui il disait, j'ai un tombeau, je me suis représenté sur ce tombeau, et comme ça je vois les gens venir devant ce tombeau où je suis, mais moi je suis toujours vivant et je les regarde. Il y avait quand même cette façon de voir pour lui, et en même temps est-ce que pour lui, je regardais ça, il voulait faire aussi bien que Michel-Ange, et sinon mieux. Et est-ce qu'en même temps, il n'y a pas un détournement des images sacrées avec lui? Si tu veux, un petit peu. Ouais.
Oui, enfin bon. Un petit peu. Lui, il était aussi, comme on dit, un autodidacte.
Oui, hein, ça aussi est important.
Autodidacte. Donc, c'est des gens qui spontanément, il y a un passage à l'acte qui est intéressant, mais ils cherchent aussi une raison. Ça les préoccupe beaucoup, ça. Comment et pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, ils cherchaient une explication un peu scientifique. Donc, où ils disaient, je suis capable de refaire la chapelle Sixtine dans une vieille chapelle que j'ai achetée dans l'heure, à Broglie, c'est donc que je suis la réincarnation de Michel-Ange. C'est pas d'autre explication. Donc il y a ces phénomènes-là explicatifs. De même, Monsieur G, créateur en Seine-et-Marne, dans la maison a malheureusement été détruite. Lui, il était persuadé qu'il était une sorte de voyant. Il captait des images qui lui arrivaient.
Et laser. Il parlait de laser.
Des images d'énergie
scientifiques qui peuvent expliquer une certaine démarche aussi de l'imaginaire. Donc il y a une espèce de mélange entre le entre des explications comme ça qu'on peut considérer comme simplistes, mais en fait c'est des gens qui sont en voyance aussi, qui ont le phénomène du rêve éveillé qui est très important, le phénomène du rêve aussi qui nourrit toutes ces projections et toutes qui sont à la racine de ce type de création. Faut pas oublier que le facteur cheval, d'accord, il a travaillé avec des pierres, mais au départ il avait une espèce de vision, comme Jeanne d'Arc entendait des voix, lui il avait vu vraiment son palais en une sorte de forme d'illumination construite comme ça de entre le mélange entre l'Inde et l'Égypte et une sorte de bâtiment à la fraternité des peuples, vous voyez, et il a vu son palais, et évidemment en rêve, quoi. Et le fait de choquer une pierre, cette fameuse pierre d'achoppement qui l'a fait trébucher et rouler dans le chemin, lui a réveillé ce rêve, et là, il est passé à l'acte. D'autres, Monsieur G, c'est pareil, Picassia Tachart aussi, c'était aussi une sorte de voyant, d'illuminé aussi, qui croyait, avec ses croyances magnifiques, il a matérialisé dans l'espace, c'est-à-dire, c'était cette non-séparation entre l'esprit et le corps. Donc, il a construit sa petite maison au départ tout à fait
ça se voyait pas trop
pour abriter sa famille et puis progressivement le délire s'est emparé de lui, il a fait un hymne à la cathédrale de Chartres, un hymne au trône noir de l'esprit, de bleu de l'esprit au trône noir du corps, le tombeau noir aussi du corps et le tombeau de l'esprit. Vous voyez, ces croyances qui sont matérialisées dans l'architecture d'une manière absolument précise et en symétrie, quoi. Et c'est un monde de la réconciliation, en fait. Voilà, c'est ça, c'est important de le pointer aussi. Du sacré, quoi, le côté sacré.
Oui, il y a ça.
Le recours chez Picassia, comme chez Roger Vasseur à Louviers, ont choisi comme matériau la mosaïque.
Ah oui.
Et il y a cette idée de brillance et de lumière et d'incarner l'esprit, comme chez Chaumont d'ailleurs, avec ses fantômes blancs de grillage ou de bois. Et donc c'est bien échapper au quotidien, aller au-delà de la matière même, c'est-à-dire la traversée, et c'est le support pour l'indicible, si on peut dire.
Et au début, alors pour certains aussi, ça, un des éléments, on parlait tout à l'heure, c'est que c'est pas facile, comme Chaumont au départ, avec les gens qui sont c'est vos propres voisins. C'est pas facile pour des gens, le facteur cheval, enfin qui ont constitué un lieu, et ils n'étaient pas certains tout de suite acceptés, ils étaient plutôt rejetés à leur tour. Non, je crois qu'au Chaumont, il a eu des ennuis quand même au tout début.
Mais oui. Hein,
oui, mais si on reprend par exemple l'exemple de Roger Vasseur à Louviers, il a eu l'expérience très jeune des ateliers de draperie qui en Normandie se sont effondrés.
Ah oui,
la draperie, il y a eu un effondrement de l'industrie. Et puis, de même, pour les ateliers de céramique et de matériaux de construction, c'est également une industrie qui est en perdition. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont vides aujourd'hui. Donc, il y a un effet autour d'eux dramatique. Et eux sont allés aussi au-delà. Ils ont récupéré... l'énergie du passé pour la donner à voir quand, malgré tous les obstacles.
Oui, alors bien sûr, il y a une opposition systématique des gens de l'environnement par rapport à ce type de démarche d'un seul coup, qui est quand même une sorte de subversion, une sorte de provocation en même temps. Et il a fallu de grandes forces de caractère et de résistance. Ça, on le trouve dans la plupart de créations, de réalisations. Mais en même temps, il y a une telle énergie qui finit par fonctionner, une telle force de résistance que rien ne les arrête, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et en plus, il y a une énergie qui est démultipliée, parce qu'on ne peut pas s'imaginer la force de travail que ça représente, les années, cette obstination à aboutir. Et finalement, il y a une reconnaissance qui finit par opérer quand même. Le contexte, il y a toujours eu des oppositions, il y a toujours eu une violente opposition à ce type de création sauvage, mais quand même, quelquefois, la reconnaissance finit par opérer. Les gens viennent visiter, le contexte environnant change un peu, il y a la télévision qui vient, des journalistes, c'est peut-être pas si nul que ça, vous voyez, il y a une espèce de... ça fonctionne, eux-mêmes font visiter, il y a des livres d'or magnifiques à dépouiller, parce que les gens, finalement, c'est un phénomène populaire, sont très très intéressés par ce type de création. Ils sont admiratifs. Claude a dépouillé 12 années de livres d'or de Robert Vasseur à Louviers. Et il y a des perles magnifiques dans ces livres d'or. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il y a aussi les gens s'identifient à la puissance de travail que ça représente, certaines valeurs, et la beauté aussi qui finit par fonctionner, le côté poétique qui intrigue et puis qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc c'est...
Alors, juste là aussi j'avais repéré, on va se déplacer, tous ces lieux sont visitables, certains plus, et un autre qui se trouve en Belgique, La Tour Ebenezer avec Robert Garcet. Ah oui. Alors, je pense Robert Garcet. Alors, ce qu'il dit, il y a des choses quand même extraordinaires, puisqu'il était hérétique. Il se disait en rupture, donc socialiste hérétique. On voit heureusement, il dit, j'ai été peu à l'école. Enfin, il a signalé, donc on n'a pas eu le temps de me dresser. Au temps des nations, il dit ça, et de leur carnaval. Autant du sang, des larmes et des chaînes, autant de l'or, de l'encens, de l'acier et du pétrole, autant des monstrueuses machines de mort, consacrant l'apothéose de la bêtise, l'homme était là. Je crois que c'est des choses assez fortes. Alors lui, c'est quelque chose, et si on peut, si vous voulez en parler de tout ce qu'il a fait, parce que, la réalisation, c'est monumental.
Ouais. Hein? Non mais alors, ouais. Robert Garcet, son domaine, la Tour d'Ebenezer, près de Maastricht,
Maastricht en plus, oui.
C'est un monument extraordinaire, c'est une sorte de génie même cet homme.
C'est ça, total, voilà.
Parce qu'en tant que carrier, il a commencé à extraire des silex, justement encore ce phénomène de la pierre.
Revenir à ça, l'origine.
Le côté minéral de tout ça, et cette interrogation sur l'origine des choses, comment les choses naissent à la vie pour aboutir à l'homme. Robert Garcet, lui, il était objecteur de conscience en même temps. Il était emprisonné parce qu'il refusait d'aller se battre. Il a caché ses enfants dans le maquis. Il ne voulait pas qu'il fasse le service militaire. Donc c'était l'objection de conscience en Belgique était réprimée. Il était à l'origine de tout ça. C'est un homme très très engagé, mais en même temps, c'est un bâtisseur extraordinaire parce que il a construit vraiment cette tour en silex qui est le musée du silex. C'est une sorte de laboratoire de recherche sur l'origine des choses. Et en plus, il le dit lui-même, cette tour qui est dans le paysage, qui fait front, qui fait signe, qui en même temps pour le désarmement contre l'OTAN, etc. Il est visité par tous les militants dans ce domaine, qu'il est reconnu.
Pacifiste, il y a eu des réunions de pacifistes là-bas.
Très très fort. Ouais. Mais en même temps, il dit, l'essentiel de mon travail, c'est pas cette tour qui fait signe dans le paysage. Mon travail, c'est l'ésotérisme. C'est-à-dire que mon œuvre la plus importante, ce sont mes souterrains. mes galeries souterraines sous la tour, il y a un véritable labyrinthe d'anciennes exploitations des silex dans la craie. Et là, Robert Garcet a fait une œuvre absolument colossale. Il y a des fresques pendant des centaines de mètres décorées, etc., sur l'histoire de l'évolution de l'humanité jusqu'à l'homme, quoi. Et c'est extraordinaire, comme toujours, ce côté avec la préhistoire, avec ce retour à l'origine, comment les choses sont venues à la vie. Cette espèce de hymne à la vie, et en même temps, le côté apocalyptique, la bête, la guerre et tout ça, qui vient contrecarrer tout ça. Donc il y a une lecture historique, philosophique, magnifique. Du reste, il a écrit l'Heptaméron.
Oui, l'Heptaméron.
Une somme extraordinaire. Un homme qui était une totalité.
Un savoir total.
Non seulement une énergie, coltiner la terre, les pierres.
Et autodidacte
en même temps.
Parce que la rupture.
Il a construit une philosophie sur l'origine du silex, qui est magnifique. Ouais. Et qui reprend en même temps cette l'hérésie de Boucher de Perthes au 19e siècle. Ces scientifiques qui ont été enfermés ou menacés de la guillotine parce qu'ils émettaient des théories soi-disant pas du tout conformes à la norme. Et Garcet a repris le flambeau de ce type de création.
Apprendre à voir.
Ah oui, c'est ça, exactement. Alors, là aussi, pour lui, donc, on parle le silex, disait la pierre tout à l'heure, on avait commencé pour les causes. Géologue, paléontologue, philosophe, écrivain, traceur de route, et j'ai vu, page 208, vous mettiez une âne, trait d'union, archi, champ sans frontières. Alors, casser les frontières, évidemment, mais les frontières à la fois pour les pays, mais je pensais pour le savoir, pour tout le verrouillage que les gens, c'est des spécialistes dans un domaine et pas dans un autre, et ça aussi, pour Robert Garcet, il y avait derrière tout ça de tout appréhender, toute la connaissance, le savoir, et avec des résultats que l'on peut voir, et aussi l'histoire du monstre qu'il a retrouvé, non, des fossiles, en creusant. J'ai vu ça aussi pour là aussi c'est pour une explication. Alors là, d'une origine, de revenir toujours donc au minéral, l'importance que ça a, justement, et puis le dépassement et pour lui aussi je voyais ça. Forte tête quand même, on peut dire, et puis en rupture et dénonçant notre société.
Rupture, mais c'est un petit pas de côté.
Oui.
Parce qu'ils sont obligés
ils sont à l'intérieur, non, mais oui, non, mais je pense, oui, non, mais ce qu'on peut dire pour la rupture avec, pour lui, avec l'époque, si on sait, une époque militarisée comme jamais, donc par rapport à lui, l'objection de conscience, revenir à la source, l'écologie, enfin tous ces éléments-là, et puis on revient au titre de l'ouvrage, bâtisseur de l'imaginaire, enfin c'est quelque chose de qui appartient, alors là aussi tout à l'heure, la dimension. Parce que pour si on prend pour les singuliers les mots hors normes les créateurs, l'instinct créateur, pour eux c'est une œuvre aussi gigantesque dans le paysage, et à l'inverse ils ne cachent pas, parce que pour l'art brut, enfin ça c'était, vous voulez pas faire des différences, mais il y a beaucoup de gens, c'était une nécessité, mais ils ne montraient pas, et je pense que eux ont une envie. Ils font une proposition, mais pour eux-mêmes, mais pour les autres.
Tout à fait.
Hein, il y a ça quand même, cette volonté de montrer au-delà du temps, enfin tout ça.
Mais en même temps, c'est un exorcisme aussi, hein, donc pour arriver, c'est une lutte, quoi, de faire aboutir une pensée. Et c'est pour ça qu'on a, notre méthode d'approche avec eux, c'était d'abord d'établir une sorte de complicité. Donc il faut du temps, une patience.
Combien de temps alors? 50 ans pour vous?
Ils sont
Non, je dis ça pour les auditeurs. Parce que vous aussi, c'est presque. Vous aussi dans une durée.
De revenir plusieurs fois. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et puis on avance progressivement.
Alors qu'on est dans la vitesse, tout le temps.
Et puis les outils d'approche qui. C'est-à-dire la parole de ces gens-là qui sont très très importantes, c'est-à-dire que la parole étant l'incarnation vraiment d'une pensée profonde, nous permet d'aller au-delà de la surface quand même, d'arriver à établir une réelle complicité, disons, quelquefois une co-création avec ces gens-là. Avec Robert Garcet, notamment, avec Chaumeau, avec d'autres aussi, il nous a fallu une approche très lente et complice, d'échange aussi, pour atteindre un peu le côté non superficiel, parce que bon, on peut visiter aussi ça comme des curiosités, mais c'est pas ça du tout.
Alors, par exemple, que ce soit chez le facteur cheval ou chez Chaumeau, ces panneaux écrits avec des sentences ou des invites, ce sont autant de petits boucliers pour que le visiteur respecte. Il y a un apprentissage, c'est moralisateur parfois, très souvent poétique, mais aussi il y a c'est une protection, enfin c'est une médiation entre le visiteur innocent, inculte, et le créateur.
Alors l'approche aussi, c'est très important. Enfin, pour votre ouvrage, j'ai dit il y a la photographie, les photos, et puis là aussi j'ai parlé tout à l'heure au début ce qui a été projeté à la Halle Saint-Pierre, rappelé aux auditeurs. Donc la Halle Saint-Pierre où souvent pour l'art singulier, on en a souvent parlé, l'art hors les normes, l'art brut. Et là, donc, le 3 décembre, il y a eu une projection, et je voulais l'importance aussi du cinéma. Parce que, comme tu as filmé, les propositions, c'était autour de trois artistes, si je me souviens bien. Il y avait, donc, Robert Tatin, Les signes de l'homme, le film que tu as fait. Et dedans, dans l'ouvrage, on peut voir une belle lettre magnifique de Tatin, et avec une réponse de André Breton. Il faut le souligner aux auditeurs. Donc déjà, pour les surréalistes, voir où on se situe quand même. On est à un certain niveau, je pense, entre pour Tatin et puis la reconnaissance immédiate avec André Breton. Le facteur cheval, autre film, sur là aussi, comment tu en parlais pour les réaliser sur plusieurs périodes. Et puis Chaumeau. Alors là, il y a plusieurs heures, je pense, que tu as Clovis filmé, et que partie des quelques éléments ont été présentés, ont été visibles à la Halle Saint-Pierre.
Oui.
Parce que c'est important, ça, je pense, ce travail.
Il y a une très belle sentence. Ouais. Chez Chaumeau, il y a une très belle sentence. Émettez des cellules d'amour. À chacun de transmettre quelque chose.
Et on espère que ça va durer, on va en parler.
Avec Chaumeau, il nous est arrivé une aventure assez unique qu'on n'a pas pu aboutir complètement, mais enfin, Chaumeau était très très en opposition aussi avec le côté journalistique, la télévision, tout ce qui venait de l'extérieur. Bon, il était très 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 contre tout ça. Et un jour, il nous a proposé j'en ai assez de ces photos faites le jour, la lumière est fade, et il faut travailler la nuit. Dans la nuit, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, on peut travailler avec des éclairages de couleurs, c'est beaucoup plus merveilleux. Il était complètement partant pour faire une expérience audiovisuelle aussi. Donc, il nous a proposé de venir la nuit, de temps en temps, filmer des lui-même faisant un peu le scénario et nous la réalisation, quoi. Mmh. Donc on partageait avec Chaumont une expérience de création cinématographique assez unique, quoi. Et donc là, je lui disais au début, écoute Chaumont, j'ai une caméra 16 mm, une petite un reflex, c'est bien, mais il faut payer la pellicule, il y a le laboratoire, c'est très cher, tout ça, comment on va faire, t'es déjà sur la paille. Alors alors lui, il avait aucune limite, il était déterminé. Il me dit, écoute, il y a des gens qui viennent me visiter des fois, qui me proposent d'acheter des œuvres, des sculptures ou des peintures. Je refuse en général, je veux rien vendre. Tout ce qui est ici, c'est moi, c'est ce qui me porte, et c'est mon domaine. Mais déontologiquement, ça me dérange pas de vendre quelques sculptures, quelques pièces pour qu'on fasse un film. Donc, je vais devenir producteur aussi. Et donc, donc, on a accepté cette idée et on a commencé à tourner des essais de nuit. Et il était tellement ébloui par le résultat que c'est une aventure qui a duré 2 ans et on a accumulé des heures et des heures de rush qu'on va peut-être pouvoir monter un jour ou l'autre. Mais c'est une aventure totale, très intéressante. En plus, Chaumont faisait des musiques, récitait des poèmes très violents. C'est un artiste total, que le côté parole, déclamation, les poèmes écrits phonétiquement, et puis des musiques qu'il inventait, qu'il enregistrait lui-même. Donc là, c'est un matériel audiovisuel magnifique qu'on va essayer de monter un jour. Quoi. Voilà, mais on en est là.
Là, alors sur Chaumont, oui, je voulais dire un mot. Vous savez le décès de Laurent Danchin, qui s'est passé il y a quelques jours. Je l'ai dit au début de cette émission. Et il y avait une association qui a été créée, des amis de Chaumont. Alors je ne sais pas pour la suite, pour pouvoir ce que vous en pensez, conserver ce lieu. Hein, puisqu'il était il y a quelques années donc en difficulté par rapport au je ne sais pas ce qu'on l'on dit, les outrages du temps, mais aussi quelquefois d'autres lieux qui ont disparu. Il y a le côté éphémère peut-être aussi d'une durée, hein, quelques années, mais aussi c'est par rapport à la dimension du temps, qui ont disparu. Alors la différence aussi, vous avez rajouté dans ces bâtisseurs de l'imaginaire quelqu'un que je trouve formidable, très intéressant, Guy Brunet. Parce que Guy Brunet, l'âge d'or du cinéma, je trouve que c'est vraiment ça. C'est pour moi, et il n'y a plus de cinéma. Bon, le cinéma est en train de disparaître. C'est autre chose, quoi. On passe à une autre époque, de mon point de vue, hein, pour un âge d'or, parce que vous avez appelé ça l'âge d'or du cinéma. Et il y a une recréation de Guy Brunet, des stars de cinéma, des artistes, des comédiens, des metteurs en scène, avec des silhouettes, et puis lui-même aussi filme, et a filmé, il est aussi artiste total dans le cinéma, le réalisateur, l'acteur, le producteur, le metteur en scène. Et alors pourquoi vous l'avez placé, Guy Brunet, alors évidemment, il y a des différences considérables, on a parlé tout à l'heure évidemment de Chaumont, de Cheval, le facteur Cheval, mais vous ne souhaitez pas, je pense, et c'est bien de faire des séparations.
Non, pas de séparation, et chaque individu est unique, donc c'est ça aussi qui nous fascine, c'est que on a à chaque fois une œuvre complètement originale. Les gens sont uniques, hein, dans leur imaginaire, dans leur manière de penser, de voir.
C'est les bâtisseurs, l'imaginaire, ça peut être aussi autrement avec Guy Brunet que de la pierre. Hein,
Guy Brunet, c'est l'œuvre totale aussi, qui nous a beaucoup intéressé. Puis en plus, le médium contemporain aussi.
Aussi.
Il a été éduqué dans l'image, puisque ses parents tenait un cinéma.
C'est ça, oui, oui, marquage social. Oui.
L'échappatoire pour toute la région, une région minière de Casseville, Cransac, Viviers, ce sont des lieux qui ont été très éprouvés dans les années 50. Il y a eu des grèves, en 63, il y a eu une grève très, très importante avant la fermeture de ces mines. Donc il vivait au milieu de cette atmosphère.
Ouais, ouais.
Et lui-même a travaillé à une usine de traitement du zinc pendant assez longtemps. Donc le cinéma, c'était vraiment l'échappatoire, le rêve, le mouvement, le mouvement pour ailleurs.
Oui, il a commencé tout jeune, à 12-13 ans, son père recevant les affiches,
cinéma,
beaucoup de films hollywoodiens à l'époque, et aussi les films européens. Mais donc lui, en tant que gamin, il collectionnait les photos de publicité, de promotion des films, les affiches, et s'est mis à dessiner. Il s'est mis à l'école, et il s'est mis à faire des dossiers où il refaisait les castings, il refaisait les scénarios. Les scénarii, il s'impliquait comme réalisateur, il s'imaginait vraiment réalisateur plus grand. Et il a réalisé un peu son rêve, en fait, d'une manière avec ses propres moyens, c'est-à-dire avec...
Oui, là aussi, avec des moyens très modestes.
Très modestes, une petite maison.
Oui, c'est pour ça. Et visible de la rue.
Aussi. Au bord de la rue, il a deux, trois étages, et ça est saturé, sa maison. C'est une véritable encyclopédie vivante du cinéma, en autodidacte. Et il a reconstitué un peu l'âge d'or du cinéma, que ce soit hollywoodien, européen, à partir de silhouettes, de figurines de tous les réalisateurs, les acteurs, enfin tout. Et lui, il filme maintenant, il réalise des films qui durent quelquefois des heures, sans aucune appréhension de montage courte ou dans des normes. Il a le final cut, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est lui-même acteur, il est lui-même scénariste, réalisateur et créateur d'une manière totale de son expérience.
C'est très joyeux.
Et il récupère aussi, il plagie les anciens films, il les recycle.
Et puis,
il les recycle à sa manière, c'est à partir aussi de récupération de vieilles copies, VHS, de vieilles télévisions. Donc il y a un traitement de l'image aussi qui est très très intéressant. Et vraiment, c'est un homme qu'on aime beaucoup et qu'on a plaisir à voir. Bon, là, mais en même temps, il est un peu fragile parce qu'il a eu une grande exposition au Musée d'Art Brut à Lausanne.
Oui, c'est ça.
Une exposition à Nantes, il va en avoir une à Rodez. Et en même temps, il est un peu déstabilisé avec tout ça parce que on lui prend ses choses, ce qu'il a autour de lui, toutes ces silhouettes qui disparaissent pendant des mois. Là, il est un peu perturbé avec ça.
Oui.
Mais bon.
Mais on retrouve, alors, avec ça, je dirais, on retrouve quelque chose de l'origine même du cinéma.
Oui.
Et puis, en même temps, là, c'est complètement à l'opposition de ce qu'est devenu le cinéma, une industrie, où c'est des centaines de personnes qui sont autour, on sait plus qui est quoi et qui fait quoi. Et alors que lui, justement, c'est un réalisateur de cinéma, l'âge d'or du cinéma, et qu'on retrouve avec Guy Brunet de façon extraordinaire. Alors, c'est pour ça que, alors, pour les auditeurs, donc, je vous recommande, alors, cet ouvrage de Claude et Clovis Prévost, Les bâtisseurs de l'imaginaire, il y a une préface de Sami Ali, c'est pas rien, donc, si tu veux un petit mot. Non, je voulais dire, pour les auditeurs, c'est surtout, allez voir cet ouvrage. Alors, vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies, mais vous pouvez le trouver, évidemment, à la Halle Saint-Pierre, à la librairie de la Halle Saint-Pierre. C'est un ouvrage de poids, plusieurs sens, multisens du terme, près de 3 kilos. Mais aussi, je dis, c'est presque un livre expo, parce que vous avez réalisé des expositions. Et dedans, donc, iconographie remarquable. Et donc, là aussi, pour faire passer ça à la radio, c'est un peu difficile. Donc, la meilleure chose, je veux dire, sur ces plusieurs aspects, de découvrir ces bâtisseurs de l'imaginaire. Les textes aussi sont remarquables, enfin l'ensemble est une réussite, donc je la recommande chaleureusement à tous les auditeurs. Donc cet ouvrage de Les bâtisseurs de l'imaginaire, publié aux éditions Klingsiek, et puis c'est Les belles lettres, exactement. Donc vous pouvez le demander à votre libraire s'il l'a pas, en disant pourquoi vous l'avez pas, puisque c'est quand même indispensable, je trouve, en librairie. Et c'est quelque chose qu'on a essayé, hein, au cours de cette émission, de faire passer l'envie, le désir aux auditeurs d'aller absolument se procurer cet ouvrage. Voilà, je vous le dis. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Alors juste avant, peut-être Clovis et Claude, tu voulais dire peut-être un mot sur un peu sur la préface de Sami Ali que vous avez choisi, pas au hasard.
Sami Ali, c'est un auteur très important qui a écrit beaucoup sur la création, sur les phénomènes de la projection et du corps propre, justement, à travers des observations cliniques. Il a théorisé en parallèle. Et c'est un homme qui fait de la calligraphie, qui est un artiste aussi, qui fait de la photographie, et qui est un grand psychanalyste et un grand spécialiste en ce moment des problèmes de somatique, la somatisation. Il travaille sur le concept de comment penser la somatique, c'est-à-dire c'est, et bon, ça c'est un phénomène qui est très proche pour arriver à approcher le processus de création, quoi. Enfin, c'est un homme et il a écrit comme préface, comme titre, il a trouvé un terme qui est pas mal, qui est l'esthétique de la marginalité.
Donc, oui, l'esthétique, c'est ça.
Il y a une esthétique quand même de la marginalité qui est importante.
Et la multiplicité des langages et des langues, parce que lui-même décrypte l'arabe, l'anglais, le français, bien sûr. Donc, c'est une grande interrogation sur le mot et au-delà du mot.
Oui, et puis comme il est d'origine égyptienne, il a été l'élève de Merleau-Ponty, il a beaucoup travaillé en France et à Paris encore maintenant. Donc, cette double lecture sur plusieurs pays et sur plusieurs
vous pourrez civilisations, c'est exactement trouver, puisque donc cette préface. Dans cet ouvrage, et puis aussi ce que l'on peut dire pour les auditeurs, les inviter, plutôt qu'aller voyager, comme on dit, au bout du monde, c'est ici. Eh bien, tous ces lieux, beaucoup de ces lieux, hein, que vous trouverez dans cet ouvrage, vous pouvez aller aussi les visiter, et ça sera peut-être un voyage dans l'imaginaire, comme on ne propose pas avec les agences de tourisme souvent, où le tourisme, c'est le contraire de l'imaginaire.
Voilà. Allez voir ces sites.
Allez voir ces sites. Je vous remercie, évidemment, Claude, je te remercie, et puis Clovis, d'être venu pour présenter cet ouvrage, donc je vous le rappelle, Les bâtisseurs de l'imaginaire, précipitez-vous, hein, je vous l'ai dit, essayez de vous le procurer, ou moins de le découvrir dans différents endroits comme la Halle Saint-Pierre, voilà, pour Chronique Hebdo. C'est terminé. Normalement, on se retrouve. Vous avez l'émission Restez à l'antenne de Radio Libertaire, de Rimes et Donuts. Tout de suite, la chanson, comme on dit, non crétinisante. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Chronique Hebdo. Je vous dis au revoir. À bientôt. J'espère que vous reviendrez. Vous avez été bien accueillis. Salut.
Merci. Merci de l'accueil. Au revoir.
Au revoir.